Valérie Beaudoin, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à Entretien journalistique.
Merci pour l'invitation.
Ça me fait plaisir. Écoute, on va se tutoyer d'abord parce qu'on est collègues, oui. Je pense, à Radio-Canada aussi, on peut le dire comme ça. Tu es chroniqueuse politique, tu es aussi chercheuse associée à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM. Ça fait long sur une carte d'affaires.
C'est pour ça que j'en ai pas.
Première question, qu'est-ce que ça fait quelqu'un qui travaille à la chaire Raoul Dandurand? Parce que vous êtes nombreux.
Oui.
Et on sait pas, on vous voit à la télé, on vous entend à la radio. Qu'est-ce que ça mange en hiver?
Écoute, c'est assez... disons, on a tous un rôle un peu différent. Les chercheurs associés sont pas nécessairement... je vais comparer aux chercheurs en résidence, qui vont vraiment travailler physiquement à la chaire, qui ont des tâches, ça peut être des tâches administratives, qui ont des mandats particuliers de faire de la recherche et qui ont des bourses souvent associées à ça. Chercheurs associés, c'est des gens qui font de la recherche dans le domaine associé à l'Observatoire. Fait que là, moi, c'est l'Observatoire des États-Unis, mais il y a aussi l'Observatoire sur le Moyen-Orient, sur les conflits multidimensionnels. Donc, c'est ça mon champ d'intérêt, c'est les États-Unis. J'ai eu une maîtrise que j'ai fait justement, que j'ai complétée en me concentrant sur les États-Unis aussi, la politique américaine. Je continue de faire de la recherche, je fais du terrain. Je suis en train d'écrire un article scientifique avec ma directrice de maîtrise. Donc, c'est vraiment des gens qui s'intéressent aux États-Unis, mais de façon académique, pas juste pour le loisir, parce que ça, il y a beaucoup de gens sinon qui pourraient se joindre à la chaire. Mais je pense qu'il y a un intérêt au Canada, au Québec, pour les États-Unis. Donc, c'est pour ça qu'on est peut-être plus nombreux que dans d'autres chaires de recherche. Puis oui, c'est vrai qu'on est très présent dans les médias, mais je pense qu'on fait quand même un bon boulot aussi de se consulter entre nous là, pour avoir différentes opinions sur ce qui se passe.
Parfait. Donc, on va parler tout à l'heure de justement ce fameux intérêt pour... Ben, toi, tu es spécialisé en politique américaine. On va parler de ce grand intérêt-là qu'on a, semble-t-il, au Québec, au Canada.
Semble-t-il.
mais donc, c'est ça, tu disais, tu es aussi... C'est un poste universitaire. Là. Tu fais de la recherche scientifique, oui, dans le sens où c'est pas simplement... parce que tu as un travail, comme je disais, de chroniqueuse. Oui. Et c'est principalement pour ça, justement, qu'on se parle aujourd'hui. Mais tu as aussi, c'est ça, tu disais, tu écris des articles scientifiques de recherche sur ce qui se passe, par exemple, j'imagine, une politique américaine.
Oui, c'est ça. Mais moi, je suis un peu... je vais m'appeler un peu une bibitte. Parce que, normalement, les gens qui sont à la chaire, de façon généraliste, c'est des gens qui vont avoir une tâche aussi d'enseignement en même temps, qui vont aussi avoir quelque chose comme ça. Moi, je me consacre en ce moment à 100 % aux chroniques. Donc, ma vie professionnelle, c'est à 100 % les interventions dans les médias. Parfois, je peux donner une conférence, parfois, je peux faire autre chose. J'ai déjà enseigné au cégep, mais c'était trop, parce que l'actualité américaine étant ce qu'elle est... Oui. Disons que c'est une job à plus que temps plein. Donc, je suis un peu différente que de mes autres collègues, parce qu'il y en a beaucoup, c'est ça, qui vont avoir une tâche à l'université ou dans un cégep ou dans un collège militaire, par exemple, où ils vont enseigner. Est-ce que ça va arriver éventuellement? Peut-être. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse aussi. Mais pour l'instant, point de vue vie personnelle et point de vue ma vie de travail. De personnes qui travaillent à temps plein déjà, puis même, je dirais, un temps plein un petit peu élargi.
Plus que plein, oui.
Oui, c'est ça. Je pense que c'est assez.
D'accord. Effectivement, tu disais tout à l'heure, avant qu'on enregistre, tu es une travailleuse...
Autonome, les deux.
Travailleuse autonome. Comment est-ce qu'on devient... Parce que, clairement, il y a eu un moment donné où tu t'es dit, ça me tente, ça m'intéresse. Comment est-ce qu'on devient chroniqueuse spécialisée en politique américaine?
Bien, de plusieurs façons. Il y a la voie régulière, qui n'est pas ma voie à moi, c'est vraiment justement de commencer dans une chaire de recherche. Et après ça, les médias vont aller parler aux chaires de recherche, vont aller parler aux gens responsables des communications et dire, bien, on a besoin de quelqu'un qui est spécialisé, par exemple, pour le conflit en Ukraine. On a besoin de quelqu'un qui est spécialisé pour la question de l'avortement aux États-Unis. Et là, ils vont aller donner une suggestion d'une personne qui peut aller faire une intervention dans les médias. C'est comme ça qu'on se fait connaître. Quand je disais que j'étais une bibitte, j'étais un peu une hybride parce que j'ai commencé comme journaliste. Donc, j'ai des études en politique internationale, j'ai des études en communication. Donc, j'ai même fait du fait divers avant comme journaliste. Donc, j'ai un passé où j'ai déjà... Le côté de communication était un peu... était déjà inné. Là. C'était déjà quelque chose qui faisait partie de mon quotidien. J'ai été recherchiste longtemps aussi dans plusieurs médias. Et à un certain point, moi, je faisais des voyages aux États-Unis pour le plaisir, mais axé sur la politique américaine. Par exemple, je suis allée couvrir l'élection Clinton-Trump à New York. J'étais là la soirée avec les démocrates qui pensaient l'emporter. On sait aujourd'hui ce qui s'est passé. L'histoire nous a appris certaines choses. Donc, j'étais sur place et c'est comme ça que j'ai des patrons qui m'ont dit, mais écoute, tu sais parler à la radio. Tu connais, t'as des études là-dedans, t'es en train de faire ta maîtrise, t'as déjà justement un bac en relations internationales et tout ça. Donc, on va te donner une chance. Est-ce que tu peux nous parler de l'ambiance là-bas, faire quelques interventions? Et c'est vraiment ça, comme ça que ça a commencé. Moi, les premiers médias qui m'ont donné une chance, c'est quoi? C'est Rythme FM. Tu sais, c'est même pas des médias qui sont spécialisés dans l'information, mais c'est la meilleure des écoles. Après ça, j'ai eu Salut Bonjour, LCN, et après, par la suite, le 98.5, Radio-Canada, et aujourd'hui, Nouveau aussi, qui fait partie des autres employeurs que j'ai.
Avec un domaine aussi, disons, rock'n'roll, que la politique américaine, où peut se passer des choses durant la nuit, peut se passer des choses très tard le soir. Comment est-ce qu'on organise une journée?
On ne l'organise pas. j'ai de la chance, depuis 2 ans, là, j'ai vraiment abandonné tous mes autres contrats. Je fais uniquement, comme je le disais tout à l'heure, des chroniques. Donc, j'ai des... Je vais pas utiliser un anglicisme, mais j'ai des gigs régulières. Donc, je sais, par exemple, que j'ai mordu de politique du lundi au jeudi. J'ai mes chroniques avec Patrick Lagacé au 98.5. Ouais. Donc, ça, c'est fixe dans le temps. Le reste, c'est vraiment en fonction de l'actualité. Ça veut dire que des congés et des vacances, c'est hyper difficile. D'ailleurs, cet été, ce sera mes premières vacances en à peu près 5 ans. Sinon, là, je prenais des longs week-ends de temps en temps, 5 jours à un certain moment, mais vraiment, le dire que je prends 2 semaines dans l'été de vacances, j'ai jamais réussi à faire ça. Fait qu'organiser les journées, on peut pas le faire. Donc, il faut aimer ça, il faut aimer l'adrénaline, il faut aimer le côté, ben on se revient sur un dixième, comme on dit en bon québécois, parce que oui, des fois, je m'en vais en onde avec un sujet et finalement, ben il y a quelque chose d'autre qui s'est passé. Il y a un attentat terroriste, il y a une fusillade, il y a une déclaration de Joe Biden, de Donald Trump. Il se passe quelque chose et là, il faut réagir sur le coup. Et moi, c'est ce que je préfère, honnêtement. Donc, je suis extrêmement satisfaite dans mon travail parce que c'est jamais de la routine. C'est toujours imprévu. Donc, ça, c'est sûr que ça occasionne certains soucis. Je suis toujours sur mon cellulaire.
Ouais.
Mais mes proches, les gens autour de moi, sont au courant que oui, j'ai mon cellulaire de greffé à la main, mais ça fait partie aussi de mes outils de travail.
Puis, tu es aussi maman d'un garçon.
Oui.
J'imagine ça aussi, ça a un impact sur... Faut que tu gères ça, là. Faut que tu...
Oui, oui. Donc, c'est assez compliqué et j'ai vraiment la chance d'avoir une mère qui m'aide et qui est toujours en train de, justement, garder à la dernière seconde parce que s'il arrive un breaking news, une dernière heure, je vais l'appeler. Je vais dire, peux-tu t'en venir? Parce que, justement, il n'est pas encore assez vieux. Là, il a 8 ans. Donc, on n'est pas rendu à l'étape de se garder seul. Mais quand même, il y a une certaine autonomie qui facilite mon travail parce que je peux aller avec la COVID. L'avantage de la pandémie, c'est qu'on est équipé à la maison pour faire des chroniques. Donc, si je suis avec mon fils qui a une urgence, bien, je peux faire une intervention à la télé. Je peux faire une intervention à la radio de la maison. Ça dure jamais très, très longtemps et on s'organise. Donc, lui est habitué. Ça fait partie de son quotidien. C'est certain. Est-ce que c'est plus simple pour quelqu'un peut-être qui n'a pas d'enfant justement sur ce côté-là de l'emploi? Oui, mais je le gère très bien. Puis comme mon fils est habitué depuis qu'il y a des souvenirs que maman travaille, ça ressemble toujours un peu à ça.
De toute façon, on arrive à un point dans une carrière de jeune, dans une vie où on se dit, bon, ben est-ce qu'on veut faire que du travail? Il y a des gens qui choisissent de faire ça, puis c'est tout à fait valide.
Correct, oui.
Mais il y a des gens aussi qui disent, bon, ben on s'en va un peu plus de temps avec ses proches ou justement fonder une famille, de dire, bon, ben il faut apprendre à peut-être lever un peu le pied de l'accélérateur. Il faut faire des choix. Effectivement, on arrive à des points. À un point, on fait des choses. Simplement qu'on arrive à un point, on est fatigué un petit peu.
Oui. Ça,
voilà. Tout à l'heure, tu disais, bon, tes premiers endroits où tu as pu faire des chroniques, c'est des endroits où on ne s'attendrait pas nécessairement à ce qu'on entend de l'actualité politique américaine. Il y a un bruit de porte aussi pendant que j'allais poser ma question. Il y a une fascination pour la politique américaine au Québec, au Canada, mais on est au Québec, évidemment. Comment ça se fait?
Je pense que Donald Trump est en partie responsable. Je pense que Barack Obama aussi avait une certaine fascination déjà là. Mais elle existait avant. Mais avec Barack Obama, on avait aussi, c'était le début de l'information toujours en instantané. Barack Obama, on dit que c'est le premier président Internet. Là, c'est vraiment là, qu'on pouvait suivre sur les réseaux sociaux éventuellement dans sa présidence. Il y a cette proximité qu'on a avec les États-Unis. Et il y a le côté, tu sais, tout est plus gros aux États-Unis. Là, tout est plus flamboyant. Je pense vraiment que Donald Trump, c'était tellement un personnage qui était... c'était pas un personnage, un politicien, comme on peut imaginer. Donc, les gens ont vu ça comme une espèce de, justement, de fascination, mais je dirais à la limite malsaine, parce qu'il y avait une obsession des médias, autant canadiens qu'américains, de parler de Donald Trump. Je me souviens, au début, Donald Trump n'était pas encore élu, et quand il tweetait quelque chose, j'allais en ondes. pour parler du tweet parce qu'il était controversé.
Ben oui.
À un certain moment, les médias se sont dit, mais ça va être comme ça tous les jours. On peut pas commencer à faire une chronique sur un tweet de Donald Trump parce qu'il faisait sa politique étrangère sur Twitter. Il réglait ses comptes sur Twitter. Alors, ça a vraiment changé. Je me souviens aussi que Donald Trump guidait de quoi allait parler CNN dans la journée.
Mm-hmm.
Le bandeau, le fameux bandeau, c'était souvent le tweet de Donald Trump. Alors, cette instantanéité, cette façon-là de faire la politique était différente. Ça a changé notre regard envers les États-Unis et ça a changé aussi la façon, nous, de l'analyser. Parce que, un, c'était une surprise quand même que Donald Trump soit élu. Deux, comment tu parles de sérieux quand il y a des choses, des exagérations qui se passent comme ça et on commente un peu tout et son contraire? Là?
Oui. Bien, je me souviens, quand même quelques années déjà, mais on a l'impression que ça fait plus longtemps que ça, que quand il y a eu la passe avec Kim Jong-un en Corée du Nord, c'était le concours de qui a le plus gros bouton nucléaire sur Twitter. Là, on se disait, c'est pas vrai que l'apocalypse va arriver, la guerre nucléaire va arriver parce qu'il y a eu un concours de qui a le plus gros sur Internet. C'était complètement absurde, mais c'était ça la réalité quand même. Là.
Ah oui, et tu disais, on en rit, mais en même temps, les gens, leur réflexe, c'est de dire, oui, mais cette personne-là, elle est code nucléaire. C'est certain qu'il y a vraiment une protection autour de ça. Là. Ça fait un peu film à la James Bond ou autre de se dire qu'il y a quelqu'un dans une mallette avec un bouton rouge et que là, les têtes nucléaires vont aller attaquer.
Mais il y a quand même quelqu'un avec une mallette qui suit le président puis qui a un bouton dans la mallette.
C'est ça, exactement. Mais il y a quand même, je rassure tout le monde, peu importe le président, il y a de la sécurité autour de ça. Là. Ça se fait pas simplement en impulsivité. Là, il y a quand même certains mécanismes et personnes autour de ce président-là, que ça soit Trump, Biden ou autre.
Ouais.
Mais oui, c'est vrai. Et je pense aussi au G7 avec Justin Trudeau. On est en train de signer un accord. Ça se passait à Charlevoix. Et dans Air Force One, finalement, Donald Trump, il se rend compte que Justin Trudeau, il n'a pas aimé comment il l'a traité dans le point de presse. Et là, il règle ses comptes sur Twitter.
Oui.
C'était particulier. C'était vraiment... Quand je parlais de politique étrangère sur les réseaux sociaux, ça, c'est un autre exemple qui nous touche directement. Donc, comment est-ce qu'on peut prévoir comment Donald Trump agit? Comment est-ce qu'on peut prévoir ses gestes? C'était hyper difficile pendant cette période-là.
Puis moi, je dois avouer que le jour où je me suis désabonné des tweets de Donald Trump, ça a beaucoup aidé ma santé mentale. Puis moi, je suis pas spécialement assigné quand je suis à Radio-Canada ou ailleurs, assigné à la politique étrangère, mais on a envie de crier des choses. On a envie de dire, c'est pas comme ça que la vie fonctionne. Vous êtes personne dangereuse, puis vous devriez pas être aux commandes de quoi que ce soit, là, surtout pas.
C'était l'opinion de beaucoup de gens à l'époque.
Je veux dire, qu'il soit légitimement élu ou pas, même à un point tel, un peu de retenue ou de réserve, parce qu'effectivement, on n'est pas juste en train de faire, encore une fois, un concours de qui a la plus forte personnalité. Il y a des enjeux énormes là, en termes de justement diplomatie, d'économie, de géopolitique et tout ça. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu disais, voyons, ça a pas de bon sens, qu'est-ce que je fais là-dedans?
Oui, puis il y a des collègues à moi qui ont eu même pris des espèces de pauses pour leur santé mentale parce que c'était extrêmement négatif tout ce qui se passait. T'sais, les nouvelles qu'on rapportait, c'était négatif. Tout le débat entourant l'avortement aussi, c'était très émotif, particulièrement pour les femmes. Donc, c'est quelque chose qui vient nous chercher et il y a eu des moments où je disais, OK, il me semble que j'aurais besoin d'une petite pause, mais en même temps, j'aime mon travail et je sens même pas que je travaille. Alors, je suis quand même très choyée dans ce que je fais. Mais oui, il y a certains moments que je me disais, jusqu'où ça va aller, tout ça. Je pense que le moment où j'ai vraiment... Je savais même pas comment réagir, c'est l'assaut du Capitole le 6 janvier.
Oh, wow,
et tout ce qui était par rapport au renversement de l'élection. Quand j'entendais tout ça, je me disais, et je voyais les gens prendre d'assaut le Capitole, je disais, c'est pas les États-Unis que j'aime. Et j'ai habité à Washington, donc c'est un endroit que je connais très, très bien. Et les images que je voyais, j'ai l'impression de voir quelque chose qui était de la fiction. Pas quelque chose qui se passait en direct. Et là, je devais réagir. On était en émission spéciale à la radio, je me souviens. Je cherchais mes mots, parce que tellement c'était exagérément inquiétant. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, j'ai réalisé que, oui, c'est une très belle démocratie, mais c'est une démocratie qui est fragile et que le dirigeant, les personnes qui sont aux commandes, c'est extrêmement important l'effet que ça peut avoir sur une société, surtout une société qui est aussi divisée que les États-Unis.
Tu disais, bon, t'es scotché à ton téléphone, mais Est-ce que tu as une routine d'information? Est-ce que tu dis, bon, ben, je consulte tel ou tel média, je regarde CNN 23h sur 24? Comment ça fonctionne?
Comment ça fonctionne? Normalement, quand je me lève le matin, je vais écouter des podcasts américains. Mm-hmm. Donc, les podcasts, exemple, je vais prendre celui des NPR, qui est justement la radio publique américaine. Donc, ça donne de l'information, un peu le portrait de la journée, de ce qui s'en vient. J'ai certains autres podcasts quand je vais porter mon fils à l'école. Après ça, je vais écouter ça. Donc là, ça me prépare à ma journée. Mm-hmm. Et sinon, je fais ma revue de presse normalement entre 8h et 9h le matin. Et par la suite, c'est certain que j'ai des alertes sur mon téléphone. Ouais. Et que là, c'est un peu en mode réaction à ce qui se passe. C'est le fun parce que je prends l'exemple de Radio-Canada pour les mordus de politique. On est une belle équipe où on s'échange justement différents sujets. Fait que je peux pas tout voir. Il y a trop de médias aux États-Unis. Ouais. Il y a trop de nouvelles. Donc, le fait qu'on peut s'échanger comme ça, je trouve ça vraiment le fun parce que les médias aux États-Unis se concentrent souvent sur les mêmes nouvelles, mais il y a plein de choses qui passent sous le radar qui peuvent être très, très, très intéressantes.
Par définition, une chronique, c'est quelques minutes. J'imagine que ça peut durer une quinzaine de minutes, peut-être, s'il y a vraiment un échange avec l'animateur ou avec d'autres invités. Aux États-Unis, surtout, bon, on a ça aussi au Canada, mais je pense que c'est plus une tradition américaine dans ce sens-là, il y a souvent des très longs formats.
Oui.
Le New York Times, le Washington Post, d'autres médias. Bon, très, très longs formats écrits ou interactifs ou tout ça. Est-ce que ça te manque? Est-ce que tu aimerais ça de dire, bon, moi, j'aimerais ça écrire 5000 mots sur quelque chose ou faire une heure d'explication plutôt que d'être limité parce que dans deux minutes, on va à la pause?
Oui, c'est certain. Et ça, je pense que c'est tout le monde qui travaille dans les médias de façon générale. On veut toujours avoir plus de place pour parler, surtout dans les formats nouvelles. Mm-hmm. Et je comprends, pour avoir été recherchiste, avoir travaillé comme journaliste dans des salles de nouvelles, à quel point on est pressé dans le temps. Ça peut être des 3 minutes, des 4 minutes. Et souvent, pour certains médias, le maximum que je peux avoir, c'est 4 minutes. Mais 4 minutes, des fois, on a 2 sujets à traiter. Ça laisse pas de place à des zones grises.
Ouais.
Ça laisse de la place à du noir et du blanc. Donc, c'est difficile de nuancer mes propos. Donc, c'est certain. Est-ce que je suis toujours satisfaite de ce que j'ai dit? Non, mm-hmm. parce que c'est tellement plus complexe que ce que j'ai présenté. D'un autre côté, je me fais moi-même mon avocat du diable. Je comprends aussi qu'on veut vulgariser une information. On doit faire ça très rapidement. Et souvent, c'est dans des formats pour justement que les gens aient le plus d'informations possible. Mon idéal, j'adore les chroniques de 10 minutes. Je trouve qu'en 10 minutes, c'est pas trop long. On a le temps d'explorer un sujet, puis d'avoir aussi des questions. Parce que comme journaliste, chroniqueuse, peu importe, nous, on voit un peu ça en silo. Mais c'est fun d'avoir un animateur ou une personne qui nous pose quelque chose qui va outside the box, là, qu'on n'a pas pensé à cet angle-là parce qu'on est tellement collé sur notre sujet. Donc, je trouve que les discussions, c'est beaucoup plus intéressant qu'un topo de nouvelles. Mm-hmm. Si j'avais à choisir, j'adore les discussions. À la radio, entre autres, on fait beaucoup le format un peu tour de table où il y a un animateur, mais il y a des co-animateurs qui vont aussi me relancer. Ça, c'est super le fun parce que ça peut venir du champ gauche. Et c'est ça que j'aimais. Je reviens à C'est quoi, là?
Oh, ouais.
Qui est une radio musicale, un peu humoristique et tout ça. Mais c'était des questions que je me disais, hey, les gens qui sont pas collés sur l'actualité américaine en tout temps, qui connaissent pas tant que ça les États-Unis, c'est les questions qu'ils vont se poser. Et tu parles des gens qui connaissent ça beaucoup aussi. Faut pas les prendre pour des niaiseux, là. C'est pas parce que t'écoutes la radio musicale que t'as aucune culture américaine. Ça, c'est vraiment fou de le penser parce que dans mes questions les plus difficiles que j'ai eues, c'est des questions que j'ai eues dans ce type de radio-là. Parce que, justement, ça venait tellement un peu d'ailleurs, puis de questions du public. J'ai toujours trouvé ça super enrichissant puis intéressant. Je me disais, si je suis capable de vulgariser à tout le monde dans un spectre très large, j'ai vraiment bien fait ma job.
Bon, là, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Oui, on a beaucoup parlé de Trump, on a beaucoup parlé de l'impact de couvrir Trump. On s'entend que, bon, que depuis que Joe Biden est arrivé, ça fait du bien un peu parce que c'est moins apocalyptique tout le temps. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un certain regret de dire, bon, ben on avait... Ça marchait tout le temps. Moi, je peux donner l'exemple qu'à Radio-Canada, tous les textes qui concernent Trump sont lus par un très, très grand nombre de lecteurs. Il y a un attrait, une espèce... Est-ce que, peut-être un attrait malsain,
on veut pas...
Mais une fascination. Est-ce que tu t'ennuies un peu de Trump?
Bien, on a eu... Je m'en ennuie pas dans le sens que je trouve ça intéressant de couvrir autre chose.
Ouais,
parce
ouais.
que là, c'était beaucoup de, comme je disais, de négatif et tout ça. Il y a des choses quand même intéressantes que Trump a fait. Là. C'est pas 100% juste du négatif,
ouais,
même si c'est pas mal ça qui est véhiculé dans les médias de façon générale. Mais la peur qu'on avait, puis ça, j'ai eu des patrons qui ont eu cette même peur-là, c'est qu'une fois que Biden allait être en poste, ça allait être plate.
Ouais.
Tu sais, qu'on allait perdre l'intérêt pour les États-Unis. Puis même moi, au niveau de mon emploi, je me disais, Trump, c'est le meilleur créateur d'emploi. Parce que je ne vais jamais lui en parler en mal, parce que j'ai une job grâce à lui, j'ai une carrière grâce à lui. Et ça, c'est sincère que s'il n'y avait pas eu Trump comme président, qu'on avait... je sais pas, dans un monde parallèle, c'est Hillary Clinton qui est présidente. Je pense pas qu'il y aurait eu cet intérêt-là. Mais l'intérêt, je pense qu'il était, il avait pris racine. Donc, les gens continuent de l'avoir. Et il se passe tellement d'autres choses.
Mm-hmm.
Malheureusement, c'est souvent encore tragique. Le dossier des fusillades, le dossier de l'avortement, le dossier du recul des droits LGBTQ+. Tu sais, il y a tous ces dossiers-là qu'on traitait peut-être pas de la même façon que là, on peut traiter. Et je te dirais que je ne m'ennuie pas. C'est vraiment rare, une journée plate en politique américaine. Même si Joe Biden est considéré comme un président un peu plus plate,
ouais,
l'actualité ne l'est pas.
Voilà. Bon, ici, on est au Canada. On est largement protégé de ça, mais est-ce que ça t'inquiète de voir le recul de la liberté de presse aux États-Unis? Beaucoup, il y a des, bon, des pertes d'emploi maintenant. BuzzFeed a fermé sa section nouvelle. Vice est en faillite. Les salles de presse traditionnelles font des coupures aussi. Est-ce que ça, toi, ça, de ton poste d'observatrice, est-ce que ça t'inquiète?
Oui, bien, partout dans le monde, ça m'inquiète quand il y a un recul du journaliste, parce que pour moi, c'est tellement essentiel à une société. Puis ce que je trouve dommage aux États-Unis, non seulement c'est le recul, les pertes de postes, c'est ce côté très entrepreneurial.
Mm-hmm.
C'est des business aux États-Unis et des business qui brassent pas des centaines de milliers de dollars, qui brassent pas des millions de dollars, qui brassent des milliards de dollars.
Ouais.
Donc, souvent, on voit que c'est pas l'information qui est la priorité. C'est justement d'aller chercher des codes d'écoute. C'est l'info-spectacle. Ça, je pense que c'est dommage pour une société. Puis ce qui m'inquiète, au-delà de justement le recul de la liberté de presse et tout ça, c'est le fait que le niveau de confiance des Américains diminue d'année après année face aux journalistes,
ouais,
face aux médias. Et je peux leur donner raison en partie. Parce que pendant... On va revenir encore à Trump, mais c'est l'exemple le plus frappant. CNN a tellement été... un réseau anti-Trump et Fox News, un réseau à l'autre opposé, pro-Trump, qu'on trouvait pas d'informations dans le milieu. Il y avait pas de réseau centriste vraiment. MSNBC est à gauche aussi. Tu sais, c'était difficile d'avoir une information que tu dis juste. Et là, ils vont essayer de se recentrer. Entre autres, CNN a mis à la porte des gens qui étaient trop extrêmes. Je mets des guillemets ici, là.
Ouais.
Mais quand même, c'est difficile d'avoir une information qui est pas teintée politiquement. Et on a vu avec tout ce qui s'est passé avec Fox News récemment, les textos qu'on a su, en fait, que les grands commentateurs à Fox News, les animateurs, disaient des choses qu'ils croyaient même pas eux-mêmes.
Oh oui.
Donc, le mensonge, c'est quelque chose de normal à diffuser en ondes. Donc, pour une journaliste, pour une chroniqueuse, quelqu'un qui aime l'information, juste cet élément-là devrait nous faire paniquer. Et j'ai l'impression que c'est pas ça qui arrive.
Ben, c'est ça, c'est une érosion lente. C'est peut-être pour ça qu'on s'inquiète pas trop maintenant,
oui,
mais effectivement, petit à petit, c'est grugé. Puis justement, aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui même, c'est la Journée internationale de la liberté de presse, en tout cas aux Nations unies, et le secrétaire général a lancé un appel en disant, ben c'est ça, c'est en danger, encore plus pour les femmes, parce qu'elles sont victimes d'harcèlement en ligne. Je sais pas si toi, tu as vécu quelque chose comme ça, peut-être, là, mais c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, et il y a pas... on voit pas d'inversement de la tendance, là.
Non, non. Et pour les femmes, j'ai beaucoup de collègues qui vivent ça pire que moi. J'ai l'impression que l'élément de distance que j'ai par rapport à mon sujet de recherche m'aide. Parce que j'ai des collègues filles qui vont commenter la politique canadienne, québécoise, ou l'actualité au quotidien, entre autres en pandémie, qui reçoivent des menaces à caractère sexuel qui n'ont aucun sens. C'est vraiment, c'est inquiétant. Je touche du bois. Notre table ici est en bois.
Ouais.
Je l'espère. Et je me dis, pour l'instant, ça va bien parce que j'ai cette distance-là avec mon sujet. Je parle des États-Unis. Je parle pas de Justin Trudeau. Je parle pas ici de François Legault. Je parle pas d'Éric Duhaime. Donc, c'est plus facile, mais je trouve ça dommage de voir à quel point il y a des gens qui ne voudront plus aller en politique, qui voudront plus aller en journalisme, justement par cet élément-là, où il y a le journalisme citoyen qui peut avoir des bons côtés, mais pas comme il est exploité en ce moment. Tu sais, c'est tout le monde peut s'improviser avec une information qui est fausse en ligne. C'est difficile pour les gens de déterminer ça après, et c'est facile de se faire attaquer énormément. Et c'est très lourd. Et je crois que ça peut freiner beaucoup, beaucoup de gens de continuer. Donc ça, au niveau du recul pour la presse aussi, c'est un élément qui n'est pas à négliger.
Une dernière question. Je sais que le temps file. Dernière question, donc, avant qu'on se laisse. Tu fais de la radio, tu fais de la télé, des médias traditionnels. Bon, tout à l'heure, tu as dit que comme tous les journalistes, à peu près, tu aimerais savoir tout l'espace dont tu pourrais rêver. Est-ce que c'est quelque chose, tu sais, d'aller justement, d'aller vers le podcast, d'aller vers, tu sais, j'imagine des choses rapidement dans mon esprit, mm-hmm. mais tu sais, de dire, bon, ben, je fais des chroniques exclusives ou je fais du contenu exclusif que j'offre en ligne à des abonnés. Est-ce que c'est quelque chose que ça t'intéresse? Je sais que tu as un emploi du temps très chargé, oui. là, mais est-ce que c'est des projets que tu pourrais envisager éventuellement?
Bien, j'essaie de rendre les réseaux sociaux intéressants parce que j'ai l'impression que c'est la nouvelle façon d'aller chercher un autre public qui ne va mm-hmm. pas regarder Radio-Canada, qui ne va pas écouter le 98.5, qui ne va pas écouter les autres réseaux. C'est justement d'utiliser les réseaux sociaux
oui.
la meilleure façon possible. Est-ce que j'ai le temps tant que ça de m'en occuper? Pas autant.
Voilà.
Mais quand je fais, je vais encore dire un anglicisme, pardon, un Q&A. Alors, tu sais, des fois, des questions des gens sur un sujet, sur la Cour suprême, sur après une fusillade, après l'annonce de Trump à la présidence, l'annonce de Biden. Tu sais, c'est le genre de sujet où les gens, ils ont plein de questions qui comprennent pas comment le système américain fonctionne parce que c'est extrêmement complexe. Donc, je pense ça, d'aller vraiment dans un peu répondre directement aux questions des gens, c'est une façon d'aller les rejoindre. Puis tu rejoins quand même un large public. Mais oui, j'aime beaucoup le format des balados. J'aime mm-hmm. beaucoup le format... l'écrit, j'aime ça. J'ai pas le temps d'en faire autant que je veux. Je fais une chronique aux deux semaines. Je déteste pas ça, au contraire. Mm-hmm. C'est juste que j'ai pas le même côté instantané
ouais.
que m'offre la radio et la télé. Étant un peu, justement, TDA, donc j'ai un petit déficit d'attention qui fait que j'aime ça, que mon horaire, ça soit, je prépare mes choses et ouais. ça se passe maintenant. Tu sais, planifier ça dans l'avenir trop lointain, c'est difficile. Mais j'espère qu'il va y avoir de plus en plus de plateformes qui vont laisser à la place à la discussion, moins juste à comme je disais tantôt, à plus de zones de gris. Je trouve que c'est important puis ça manque parfois en information.
Valérie Beaudoin, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci.
Puis évidemment, merci d'être fidèle au rendez-vous, ceux qui nous écoutent en ce moment, évidemment. Avant de vous laisser, deux choses très rapidement. Si vous aimez nos contenus, si vous aimez nos podcasts et vous voulez qu'on puisse manger, payer nos factures, c'est toujours important. On a un Patreon, vous pouvez vous abonner. Pour 5 $ par mois, vous avez accès à des épisodes du balado Rembobinage en primeur. Et je vous invite aussi à vous abonner à l'infolettre de Pieuvre. Ça vous envoie tous les contenus directement dans votre boîte de réception les samedis matins. Sur ça, je vous dis merci et à bientôt.